Bon, léger retard, c'est pas grave. Il est patient. Merci, Oli, d'être patient comme ça.
Ça fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais de stress.
Un gars flexible.
Ali, c'est un vrai.
Oh, flexible, ouais, avec
non,
le temps.
T'es plus flexible que Georges Larac. Parce que je l'ai vu, il plie pas, là, lui.
C'est ça, c'est comme la fois où Daniel Lovitz avait gagné défenseur de l'année à l'Impact de Montréal.
Je me rappelle.
Dans une année catastrophique, puis il avait dit, ben là, c'est comme me dire que je gagne le trophée du plus grand dans une compétition de petites personnes.
Un compliment.
Hey Ali, on revient un peu sur le match de hier. Est-ce que tu peux dire que quand même, malgré tout ce qui est arrivé, le CF termine la tête haute?
Tu peux être fier de ta fin de saison, mais tu peux pas fanfaronner. Tu peux pas non plus faire abstraction de ce qui s'est passé en milieu d'année où, oui, il y avait des gars blessés. Oui, il y a des gars qui sont partis en équipe nationale. Il y a eu beaucoup de changements aussi. Mais il y a eu un engagement, un clash entre l'engagement du milieu de saison puis ta fin de campagne où là, tu sentais que tout le monde était vraiment la pédale au fond. Tu as réussi à trouver la recette aussi. Laurent Courtois a trouvé un 11 de départ qui était cohérent, qui faisait le travail et qui a été reconduit match après match. Mais la tête haute, oui, mais en même temps, je pense que tu as l'obligation d'avoir des regrets par rapport au match de mardi. Et ça, c'est presque une bonne nouvelle parce que tu n'es pas juste en train de dire « Hey, ça allait tellement mal, on a fini ça sur une bonne note ». Non, tu restes sur ton appétit puis je pense qu'il faut que tu carbures à ça en vue de l'an prochain.
Bon, l'an prochain. Il y a eu beaucoup de pression sur lui et tout le reste. Tu as parlé de Laurent Courtois.
Ouais.
Est-ce que pour toi, en faisant les séries éliminatoires, il sécurise son poste avec le CF Montréal?
Moi, c'est plus le contenu que le résultat. Puis là, ça retombe dans le fameux débat, le process, résultat, etc. Mais si tu avais fait les séries sans jouer de la manière avec laquelle le CF Montréal a joué depuis que tu fais toujours commencer Joseph Martinez, depuis que ton attaque a déblaqué, ta défense s'est consolidée et que tu as été capable d'être en maîtrise des matchs, ça me dit, oui, let's go, c'est confirmé pour l'an prochain. Mais si tu étais rentré avec un match, tu joues la contre-attaque, un autre match, ben t'es un peu chanceux, tu te prends trois buts, mais t'en marques... Tu sais que ça avait été aléatoire puis il n'y avait pas de cohérence d'un match à l'autre, là, je serais encore sur la clôture à me dire, ils vont se dire quoi au CF Montréal? Gabriel Gervais, Corey Ray, le consultant qui est là pour aider à la direction sportive, est-ce qu'ils vont être convaincus? Mais le contenu, parce que le match contre Atlanta, les gars, première mi-temps, là, CF Montréal était de loin, de très très loin, la meilleure équipe sur le terrain. Tu sais, j'en parlais au cours des derniers jours. Atlanta rentre au vestiaire avec une avance de 2-0, puis je sais pas dans quelle langue ils disent, mais c'est l'équivalent de Paul Le Char. On est en train de voler cette rencontre-là. Et on va mettre ça dans la catégorie des plus, parce que tu montres que la fameuse empreinte de Laurent Courtois, qu'on espérait ressembler à Wilfried Nancy. Je ne sais pas si c'est dû à lui, je ne sais pas si c'est les joueurs qui se sont pris en main, mais c'est au moins sous sa gouverne que tu as été capable d'offrir un produit qui ressemble ou qui commence à ressembler à Wilfried Nancy en fin de saison.
Comment tu as vécu la rencontre des Astrades avec l'énergie et tout?
Ah, l'énergie. Mais ça
a l'air fou, là.
Oui, mais dans les deux sens.
OK.
Quand ils ont encaissé le deuxième, là, c'était le silence total. Puis c'était pas complètement plein, mais ceux qui étaient là, c'est comme des matchs de championnat canadien en milieu de semaine. T'sais, on a vécu des années où il y avait juste 12-13 000, tu avais l'impression qu'il y en avait 40 dans les estrades. C'était ce type de crowd-là qui était là. Donc, ça a été vraiment compliqué quand t'encaisses le deuxième juste avant de rentrer au vestiaire. Là, t'as comme un 15 minutes de flottement à la mi-temps où tu te dis, on est-tu vraiment en train de se diriger vers un match où on va se faire planter ou est-ce qu'on est capable de revenir? Tout le monde sentait que...
On s'en va-tu?
Ben, quasiment, mais en même temps, le contenu était trop bon en première mi-temps pour que les gens abandonnent. Là, il y a des changements qui sont faits. Ça repart, la montagne russe d'émotions. Puis le vide, là, le vide total d'air. Il n'y avait plus d'air. On a siphonné l'air de ce stade-là quand le dernier penalty est rentré. Mais une chose que je retiens, puis c'est la raison pour laquelle j'aime aller le vivre comme fan, c'est d'écouter ce qui se dit autour, comment les gens réagissent. Je reviens souvent à des gestes défensifs qui sont faits ou des jeux où tu te sors du trouble, mais quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la game s'en rendrait pas compte, qui sont applaudis. Tu es capable de l'apprécier plus que sur la galerie de presse. Puis une autre chose, il y avait un kid, il devait avoir 10 ans. Et 10 ans, je pense que je suis généreux. Victor de Saint-Hilaire. Il était là avec son hoodie des Nordiques. Et je vous dis, les gars, il connaissait tout. Pourquoi il n'est pas là, Wanyama? Hey, il est où? Il n'est pas dans l'effectif? Puis là, il est en train de parler des changements qui devraient être faits, du fait que sur la gauche, c'était plus compliqué. une encyclopédie. Puis je me suis dit, c'est tellement 2024. T'as un kid avec un hoodie des Nordiques. Je vous confirme, jamais vu une game des Nordiques de sa vie, là. Quoique lui, il avait l'air d'un gars qui est peut-être remonté dans les archives de YouTube, qui connaît tout sur son équipe du CF Montréal. Je vous dis, là, il était plugué, puis il comprenait ce qui se passait. Quand je dis plugué, il était engagé dans le match, puis tu voyais que c'était pas son premier de la saison. C'est ça, maintenant, la crowd qui se déplace au Stade Saputo, puis j'ai trouvé que c'était super intéressant.
Le côté familial qu'on dit souvent avec le CF Montréal, même si c'était en semaine. Qu'est-ce qui a pas fonctionné dans ce match-là pour toi?
Bah, c'est des erreurs individuelles en défense. Puis ça, t'avais réussi à enrayer ces erreurs-là. C'est plate parce que ça tombe sur un gars en particulier, Raheem Edwards, qui a connu un match. Puis là, je me permets de dire qu'il a connu un match catastrophique parce que pour moi, Edwards a beaucoup de loin dépassé les attentes que j'avais envers lui à son arrivée en début de saison. Je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé important, mais sur ce match-là, il a complètement échappé. De manière générale et sur les deux buts en particulier, parce que si tu fais un meilleur travail, ne serait-ce que sur un de ces deux buts-là, tu le sais qu'en deuxième mi-temps, tu vas revenir, pas juste pour égaler la marque, tu vas revenir puis tu vas le gagner le match. Là, malheureusement, tu es arrivé à court, tu as été obligé d'aller au tir au but, puis à partir de ce moment-là, ben c'est toujours un pile ou face.
Ali, est-ce que ce qui est arrivé cette saison-ci te permet d'être enthousiaste pour l'an prochain?
Le contenu de la fin de saison, oui. Mais là, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Ben, la réponse, en un mot, c'est oui. Parce que ça n'a rien à voir avec... Non, mais ça n'a rien à voir avec le visage. Tu comprends? On se demandait tellement longtemps cette saison, ça ressemble à quoi une équipe stable sous Laurent Courtois? Puis jusqu'aux 7 derniers matchs de la campagne, là, on ne l'avait pas, la réponse. Puis là, c'est tombé tout d'un coup. Mais Joseph Martinez, il...
C'est ça. C'est oui, mais qu'est-ce qu'on fait?
Il revient-tu? Tu sais, ça, c'est le côté qui peut être un peu inquiétant. À l'inverse, tu peux dire on a 1,8 million qu'on donnait à Victor Wanyama qui peuvent aller à un joueur de grâce offensif, pas un autre milieu de terrain. Ça, c'est excitant parce que c'est de l'argent que tu as disponible pour investir dans un joueur offensif. Donc, il y a plein d'éléments intéressants sur la fin de saison, mais je ne vous cacherai pas que le travail de l'entre-saison pour un directeur sportif qui n'est pas nommé encore, à moins que ce soit Corey Ray, qui est consultant en ce moment, je le disais tantôt, qui soit confirmé comme directeur sportif. Et ils ont de la job, pas à peu près. Mathias Coccaro.
Il reste 2 ans de contrat, Coccaro.
J'avais oublié.
À 860 quelques mille, là.
Ah, mais je veux dire, oublie l'argent, là. Même si c'était 87 000, le gars était ton attaquant numéro 1 dans la hiérarchie au début de l'année. Puis là, il est dans les estrades. Pour conclure la saison, il est disponible, de ce qu'on comprend. Il était apte à jouer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Mais dans le contenu, je pense qu'il y a quelque chose qui a été installé sur lequel tu peux clairement bâtir pour 2025.
Bon, demain, bilan.
Eh boy.
Demain, bilan du CF Montréal. qu'est-ce qui est sur ta liste pour demain?
Ben,
qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères?
Attends une minute. Ça fait longtemps que j'ai abandonné
sur qu'est-ce que t'attends?
Les attentes sur ce qu'un bilan de fin de saison du CF Montréal.
On va-tu dire quelque chose ou on va rien dire demain?
Ben, voilà. Ça se résume à ça. Parce que, de ce que je comprends, c'est les joueurs qui seront récipiendaires des trois trophées qui vont être donnés. MVP, trophée de Giuseppe Saputo, trophée de la Grinta, puis joueur défensif. Ça, le récipiendaire change la game. Parce que si Joseph Martinez gagne le MVP, là, tout d'un coup, on a des questions à poser.
Ah oui.
Si c'est quelqu'un d'autre qui le gagne, ben peut-être que ça change un peu. Moi, j'aimerais avoir du concret. J'aimerais savoir, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec Victor Wanyama. Puis t'es pas obligé d'envoyer quelqu'un en dessous de l'autobus, là, mais au lieu de dire, divergence, tu sais qu'on rentre...
C'est le temps, là.
Ben oui, exactement. Puis... De toute façon, Laurent Courtois, Gabriel Gervais, c'est techniquement Olivier Renard qui a donné un contrat à Victor Wanyama. Donc, sans envoyer quelqu'un au-dessus de l'autobus, au moins avoir des réponses, à savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Parce que dans le passé, on avait la fâcheuse habitude d'arriver avec des bilans où ce qu'on nous disait, c'est on nous regroupait pour nous dire ben, on va checker ça puis on vous revient. Ouais. Mais là, à ce stade-ci, il faut que tu aies tiré des conclusions. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais des conclusions sur la saison. Statuer sur certains joueurs, t'en as beaucoup, là, des gars qui sont pas sans contrat, mais en année d'option. Martinez, Joel Waterman en fait partie. C'est des rouages importants. Tu fais quoi avec ces gars-là en vue de l'an prochain? Si tu veux pas statuer tout de suite, explique-nous tu vas te baser sur quoi? Sur statuer, qu'on sache un petit peu quoi anticiper en vue de l'an prochain, parce que c'est ça ton gros défi en ce moment, c'est t'assurer que les fans, à la fin de ce bilan-là, aient hâte à ce que 2025 commence.
Là, Olivier, pour terminer, on veut un commentaire par rapport aux des changements pour le calendrier dans la MLS. Puis, pendant que tu réponds à cette question-là, moi et Gonzo, on parlait de ça au début de l'émission, comment ça coûterait pour hiverniser le stade pour être capable justement de régler les problèmes de où on peut jouer déjà que le stade est en rénovation?
Bon, là, il y a le coût, Gonzo, je pense que le coût des rénovations, t'es au courant de la vitesse à laquelle ça augmente depuis quelques années.
On est rendu à combien, là?
T'es mieux placé pour me le dire. La dernière fois qu'on en avait parlé, pour hiverniser et apporter les améliorations que le club voulait avec des espaces corporatifs VIP qui pourraient être des grosses entrées d'argent, c'était 75 à 100 millions. Et ça, sauf erreur, ça incluait une portion hiverniser le stade. Donc, on doit être un peu au-dessus de ça. Je ne sais pas, rendu au moment de faire des travaux. Est-ce que tu peux déjà faire des travaux en même temps que le stade olympique? Je ne sais pas, est-ce que tout le système du métro en dessous...
Et au niveau de l'horaire, de la saison et des matchs prévus?
C'est un excellent point. Bref, ça, c'est un casse-tête. Après, pour le calendrier, c'est tellement complexe. Tu demandes à des gens à Houston, eux, ils sont fous comme des balais. En juillet, ils veulent jamais sortir de chez eux. Il fait trop chaud.
En Floride...
Moi, je pense que c'est faisable d'un point de vue sportif. C'est faisable. Tu joues de août à décembre, le ou les quelques derniers matchs avant Noël, tu les joues sur la route. Après ça, ta reprise se fait en février. Tu joues déjà de toute façon 6 matchs sur la route en février et c'est en début de saison. Pour moi, c'est pas mal plus difficile de négocier 6 matchs en début de campagne à l'étranger que 4, 5 ou 6 matchs à l'étranger dans ce qui est un milieu de saison, même si tu aurais une reprise là, après un arrêt de 5 semaines. Là où ça devient plus difficile, c'est que d'une perspective très montréalaise, là, tu as le Canadien dans les pattes d'un bout à l'autre, puis ça t'aide pas. Il n'y a aucun moment où tu as tout le plancher pour toi, parce que là, en mai, si le CH fait pas les séries, on s'entend, là, on va rester dans le contexte actuel, tu es tranquille de quoi? Fin avril à juin, ça te laisse quand même beaucoup d'espace. Tu as les Alouettes qui sont là, mais tu n'as pas de Canadien l'été. Donc ça, c'est un défi. L'autre défi serait de te positionner. Puis moi, je pense que le climat, si tu le mets de ton bord, tu sais, le fameux flocon, là, moi, j'étais prêt à vivre avec si on était conséquent et on embrassait la nordicité du CF Montréal. Mais là, pour vendre un match un samedi soir, 7 novembre, face à Austin FC, un match de championnat qui n'est pas un match de série à ce temps-là de l'année, c'est sûr que ça va demander un shift important. Je ne sais pas comment tu peux le positionner. Ce serait un gros défi de com et de marketing, mais sportivement, je pense pas que ce serait la catastrophe pour le CF Montréal. Là, après, est-ce que tu rentres le Stade olympique là-dedans une fois que c'est prêt? Écoute, ça, c'est un gros point d'interrogation. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une petite question pour Gabriel Gervais là-dessus demain au bilan.
J'espère qu'elle sera là, c'est sûr.
Merci, Ali.
Merci beaucoup, Ali. Bon bilan demain.
Ben oui, on va voir ce que ça donne, puis on va enregistrer un Au fond des filets avec Frédéric Laure. Tout de suite après, ça va être disponible en fin d'après-midi, si je ne me trompe pas, demain.
Parfait, version bilan. Merci beaucoup,
Ali.
Merci.